Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast pour un nouvel épisode interview dans lequel j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alice. Alice est une élève de mon programme YogiBiz Line. Elle est prof de yoga depuis un an et elle accompagne aujourd'hui les femmes touchées par l'endométriose vers une relation apaisée avec leur corps et la douleur grâce au yoga. Elle est aujourd'hui la créatrice du compte Instagram @endo.serenity, l'hôte également du premier podcast français à parler d'endo et de yoga et la créatrice de l'accompagnement Renaissance pour mettre l'endo au placard en 8 semaines. C'est son programme signature qu'elle s'apprête d'ailleurs à relancer pour la deuxième fois après le succès de la première cohorte. Pourtant, il y a un an en arrière, Alice, la vingtaine, était tout juste diplômée de son yoga teacher training. Elle parlait yoga d'une manière générale sur Instagram, donnait quelques cours de vinyasa en parallèle de ses études et avait déjà un podcast, mais qui parlait de dev perso. Alors, comment en est-elle arrivée là aujourd'hui, en seulement un an et en parallèle d'études en master à temps plein ? Comment elle a réussi à se démarquer au milieu des profs de yoga et construire une communauté engagée en étant fraîchement diplômée ? Quelles sont les étapes qui lui ont permis d'atteindre ses objectifs pour le premier lancement de son programme ? Comment elle s'y est prise ? Et qu'est-ce qui lui a permis de ne pas s'éparpiller ni se sentir submergée dès le début ? On verra également comment elle a géré son syndrome de l'imposteur et sa peur de ne pas vendre parce que oui, malgré son parcours exemplaire, Alice a également eu quelques embûches. À 22 ans et un an après avoir rejoint YogiBiz Line, Alice a finalement créé son business model de prof de yoga sur mesure avec des fondations solides et aujourd'hui, elle a pris son envol. C'est ce parcours de jeune diplômée à yogipreneur épanoui qu'Alice nous partage aujourd'hui dans cet épisode avec générosité, engagement et méthode. Vous allez voir, Alice aime l'organisation et les détails. Je laisse tout de suite place à ma conversation avec Alice. Salut Alice, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur YogiBiz Podcast.
Hello Cécile, moi aussi, ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté du micro.
Oui, alors c'est vrai que tu es aussi une podcasteuse, donc cette fois-ci, eh bien, c'est toi mon invité, profites-en. Et puis, on a aussi eu l'habitude du coup de se côtoyer dans YogiBiz Line puisque tu es donc une élève de YogiBiz Line. Et là, aujourd'hui, bah, c'est un petit peu la célébration de pouvoir partager ton parcours et tout ce qui s'est passé depuis que tu as rejoint YogiBiz Line. Donc écoute, ce que je te propose, c'est de commencer par les présentations, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et pour te présenter à mon audience et puis après on reviendra sur tout ton parcours.
Eh ben let's go, c'est parti. Donc moi c'est Alice, j'ai 22 ans et je suis un petit peu jeune pour une prof de yoga, je suis assez jeune et je suis du coup professeure de yoga diplômée dans 200 heures depuis l'année dernière, depuis mars 2021. Et à côté de ça, je fais mes études vu que voilà, je n'ai que 22 ans. Je suis encore en études, je suis en master de marketing digital, d'où le fait que je me sois formée en marketing avec toi. Hein. Voilà, on comprend bien pourquoi. Il y a quand même une petite affinité de ce côté-là. Et donc voilà, je suis professeure de yoga à Lille. J'enseigne le vinyasa en studio, donc en présentiel. Et j'ai également développé mon activité en ligne autour du yoga et de l'endométriose, puisque je suis atteinte d'endométriose et que j'ai donc voulu me nicher sur quelque chose que je connaissais très bien. Et donc voilà, je donne des cours, mais ça je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. J'ai également développé un programme en ligne autour du yoga et de l'endométriose avec du développement personnel et tout ça. Et voilà, et pour l'instant, c'est déjà beaucoup.
Oui, c'est déjà beaucoup à 22 ans, en effet. Bravo pour ce parcours déjà et pour tout ce que tu fais et tout ça en même temps. Donc, effectivement, on va revenir sur tout ça parce que je pense que ça peut intéresser plein d'autres profs de yoga en devenir ou même d'autres profs de yoga qui mènent aussi plusieurs activités de front et qui souvent se posent la question de est-ce que c'est aussi possible pour moi de développer une activité en ligne à côté d'un autre job ou d'études ou autre. Donc, on y reviendra. Juste petite question, ton yoga teacher training, du coup, tu l'as fait en ligne ou en présentiel ?
Alors, je l'ai fait en présentiel sur Paris avec une formatrice qui s'appelle Anne-Julie, que j'aime beaucoup. J'ai eu un gros, gros coup de cœur sur sa formation et je voulais à tout prix le faire en présentiel pour justement l'expérience, en fait. Je pense que c'est aussi tout aussi intéressant d'en faire un en ligne. Mais je trouvais que c'était plus formateur et en termes d'expérience humaine aussi, voilà, ça me tentait bien en présentiel.
Ouais, ouais, complètement. Bah, je te rejoins, hein, puisque je pars aussi faire mon yoga teacher training en présentiel, bien que je sois plutôt orientée 100% online. Donc, je comprends bien l'aspect aventure humaine, effectivement. Et puis, j'avais une autre question qui vient de m'échapper. Oui, alors, du coup, si tu nous disais que tu faisais un master en marketing, alors, est-ce que ça veut dire que finalement, dans le master marketing, on n'apprend pas forcément ce qu'on peut apprendre en termes de marketing digital pour les profs de yoga dans YogiBizLine, par exemple? Est-ce qu'il y a une différence pour toi? Est-ce que c'est complémentaire? C'est vrai que du coup, ça m'a interpellée.
Ouais, bah, totalement. Alors déjà, j'ai décidé de me former du coup avec YogiBizLine avant de rentrer dans mon master de marketing. D'accord. Et c'est un peu comme ça aussi que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait, de un. Et de deux, je pense qu'effectivement, l'approche est différente, c'est-à-dire que c'est plus théorique. Et en fait, la partie pratique, la partie vraiment du terrain, on va l'avoir plutôt en stage, ce que je suis en train de faire, et en alternance. Et c'est vrai que bah, YogiBizLine, ça a vraiment rien à voir, étant donné que déjà, c'est très, très pratique. C'est vraiment ancré dans le quotidien d'un professeur de yoga en termes de communication. Et en plus, bah, c'est une niche, donc c'est beaucoup plus spécialisé. Mmh. Et c'est vrai que moi, pour mon activité de professeur de yoga, j'ai beaucoup plus appris avec YogiBizLine. Donc, ouais. tu peux même remplacer un master.
Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Je pourrais peut-être effectivement me substituer à un master. En tout cas, c'est intéressant aussi parce que des fois, il y a des personnes qui se disent, est-ce que je vais être capable aussi du coup d'apprendre toutes ces notions de marketing digital et tout, et bah, comme quoi même si on connaît le marketing à côté, même si on fait déjà de la communication, et c'est vrai que c'est pas la première fois que je le vois, c'est quand même différent dans la mesure où effectivement dans YogiBizLine, on n'est pas là pour faire une formation de marketing digital. C'est vraiment du marketing, mais appliqué et, comme tu le dis, spécifique aussi aux profs de yoga et aux professions holistiques. Et ça, bah, on ne l'apprend pas à l'école, voilà, ou pas dans une formation plus généraliste. Donc, du coup, c'est sympa de pouvoir parler de ces différences-là. Alors, bah, justement, si on fait le lien directement avec ce moment où tu as sauté le pas, où tu as franchi le cap de rejoindre le programme, si tu peux nous rappeler déjà à quel moment c'était. Et puis, bah, si on fait un petit, pas un avant-après, mais dans quelle situation tu étais en fait à ce moment-là, quoi, au moment où tu as rejoint YogiBizLine? Je sais pas quelles étaient les questions que tu te posais peut-être, les besoins que tu avais, voilà, comment, dans quelle situation tu étais.
Alors, ben, j'ai rejoint le YogiBizLine assez rapidement, en fait, après que j'ai été diplômée, puisque comme je te disais, j'ai été diplômée en mars 2021 et j'ai rejoint le programme fin avril, donc au moment où tu faisais ton deuxième lancement.
Ouais, exact.
Donc ça a été très rapide et justement c'était voulu, en fait je voulais pas, j'avais pas envie de perdre de temps. Déjà le marketing digital c'était quelque chose qui me plaisait énormément, donc je m'étais déjà renseignée, j'écoutais énormément de tes podcasts, donc c'était déjà des choses qui me passionnaient, qui m'intéressaient beaucoup et j'avais vraiment cette soif d'apprendre à ce niveau-là. Mmh. Et j'avais aussi pas envie de perdre de temps à patauger et à pas trop savoir comment faire. Et faire des choses qui n'étaient pas forcément optimisées ou le plus efficace possible. Et du coup, oui, j'ai décidé de sauter le pas. Je me suis dit que ça servait à rien de perdre 6 mois, 1 an. Surtout que aussi, il y avait une nécessité pour moi, c'était que ça soit des choses qui soient efficaces et rapides à mettre en place, étant donné que j'étais encore en études et donc j'avais pas un 35 heures, entre guillemets, un temps plein à allouer au yoga. Donc, il fallait que je puisse être efficace, avoir une communication efficace sur différents canaux et tout ça, bah, du coup, en un temps assez réduit dans la semaine. Ouais, j'ai sauté le pas direct. J'ai un petit peu hésité parce qu'effectivement, c'est un investissement. Moi, je sortais d'un teacher training qui m'avait coûté plus de 2000 euros. C'est quand même aussi un investissement à la base, la formation de yoga. Donc, c'était tout de suite un investissement supplémentaire à sortir, sachant qu'en plus, j'étais étudiante, donc c'était mes économies. Mais en fait, je ne l'ai pas regretté du tout. Je voulais pas perdre de temps en fait. Je voulais vraiment rentrer directement dans le concret, ne pas me décourager aussi, ne pas risquer de me décourager parce que là je venais de sortir de ma formation, je venais d'être diplômée, j'étais pleine d'espoir entre guillemets, toute
motivation on fire. Ouais,
c'est ça. C'est ça, mais je voulais pas perdre prendre le risque en tout cas de perdre cette motivation, de me désespérer en pataugeant entre guillemets dans la semoule et peut-être presque me dégoûter en fait de cette activité de yoga là, sachant qu'en plus le yoga, on le sait tous, c'est un milieu qui est quand même assez concurrentiel. C'est pour ça aussi que tu nous encourages largement à nous nicher, c'est parce que il faut réussir à tirer son épingle du jeu. Je me suis dit que c'était le meilleur moyen en fait, c'était d'être formée et de savoir dans quoi je mettais les pieds, tout simplement. Donc voilà où j'en étais quand je suis rentrée dans Yogi Bizline.
Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que j'entends, enfin parfois j'échange aussi en DM ou autre avec des jeunes profs de yoga qui pensent que c'est trop tôt pour elles. Et alors évidemment, j'explique tout ça, mais quand ça vient de moi, comme c'est mon offre, etc. C'est mieux effectivement d'avoir des exemples concrets, de se dire ça évite d'être tenté par le syndrome de l'objet brillant, d'être tenté par consommer tout le contenu possible et inimaginable et puis de tout essayer et, comme tu le dis très bien aussi, de s'épuiser, de passer par les montagnes russes, parce que ça, on n'y échappe pas. Mais du coup, quand on a un plan d'action à suivre, et je pense aussi que quand on a du coup quelqu'un qui nous soutient, une communauté, etc., c'est quand même plus facile de pas lâcher en fait, de rester aussi motivé. Donc c'est sympa d'entendre effectivement dans quelle situation tu étais. Et du coup, quand tu as rejoint Yogi Bizline, c'était tout de suite dans l'optique de développer un programme en ligne. Tu as rejoint parce que tu avais une idée de développer une offre en ligne. Tu l'as rejoint parce que tu t'es dit ça va m'aider pour démarcher les studios. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie de faire? Tu l'as rejoint parce que tu t'es dit ça va m'aider dans ma communication pour me faire connaître en tant que prof de yoga. C'était quoi un petit peu l'attente en fait pour toi par rapport à ça, le projet derrière?
Eh ben c'était un petit peu tout.
D'accord.
J'avais vraiment envie de me lancer dans le yoga en ligne. Alors pas forcément en faire mon 100% en termes de yoga, parce que j'aime beaucoup enseigner en studio, mais j'avais envie que ça soit quelque chose de complémentaire. Les réseaux sociaux, le digital, c'est quelque chose qui me passionne, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et généralement, quand on est passionné, on s'en sort plutôt bien. Donc je savais que je pouvais aussi tabler là-dessus. Et donc, je me suis dit tout simplement qu'il fallait bien commencer quelque part. J'avais pas encore d'idée de programme à la base, mais effectivement, j'avais envie de faire soit un programme en ligne, soit développer un studio en ligne, ce genre de choses, même si rapidement, je me suis rendu compte que le programme en ligne me convenait mieux en termes aussi de temps à allouer tout simplement au yoga. J'avais aussi besoin de bonnes bases. C'est-à-dire que moi, ça m'intéressait pas de développer un programme, mais de pas savoir comment le vendre. J'étais aussi très intéressée à l'idée de développer mon podcast, parce qu'à l'époque, j'avais un podcast de développement personnel qui s'appelait Les Sentiers de la Sérénité, mais en fait qui me servait absolument pas pour développer mon compte Instagram, etc. C'était pas du tout, ça coïncidait pas en fait.
Ça rentrait pas dans ton écosystème et dans tes objectifs business. C'était un peu pour le plaisir finalement, c'était pas une ligne éditoriale, si on utilise les termes qui étaient en corrélation avec ton projet de devenir prof.
C'est ça. Et donc je sentais qu'en fait, ça manquait d'homogénéité et d'harmonie entre tout ce que je mettais en place. Et j'avais envie de prendre une seule direction et de m'y tenir, mais je ne savais absolument pas comment faire. Même si je commençais à avoir quelques bases en marketing parce que je me renseignais beaucoup, que ça m'intéressait, j'avais vraiment besoin d'être guidée et d'être rassurée aussi. Ça, je pense qu'on parlera aussi du mindset plus tard, mais j'ai besoin de sécurité généralement et de suivre et d'aller dans les clous. Et donc, avoir une formation qui me permettait de tout faire du step 1 jusqu'au step 10, bah, ça m'allait totalement et c'est vraiment ce dont j'avais besoin. J'avais pas juste besoin d'une formation pour créer un programme, j'avais vraiment besoin d'une formation pour m'aider à poser les bases et à évoluer et quelque chose qui soit progressif et évolutif. La preuve, un an plus tard, YogiBiz Line, c'est encore quelque chose que j'utilise. Donc c'est que j'ai fait quand même un bon investissement.
Oui, c'est clair qu'en termes de ROI, pour le coup... c'est un investissement sur du long terme, mais c'est comme ça que la formation elle a été conçue, donc tant mieux si ça a bien répondu à ses attentes. Et donc, alors, tu franchis le cap en avril 2021, c'est ça, voilà. Ok, et alors, bah, qu'est-ce que tu as mis en place depuis, du coup, maintenant, concrètement, dans ton business?
Alors, il s'est passé beaucoup de choses. En fait, j'ai quasiment tout repris depuis le début, en fait. Ça a été long, ça a pris du temps pour vraiment trouver l'idée de base, ma cible, ma niche, toutes les choses qu'on travaille dans le tout début de YogiBiz Line et qui sont fondamentales. Et j'avais pas envie de me tromper sur ça parce que ça conditionne quand même un certain nombre de choses pour la suite. C'est un petit peu voilà la chape de béton qu'on met sur la maison. Donc si on n'est pas sûr de ça, c'est un peu compliqué. Donc j'ai refondé tout. J'ai décidé de me nicher sur les femmes atteintes d'endométriose. Comme je le disais, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Et je me suis demandé tout simplement, et c'est quelque chose que tu nous encourages à faire, à nous demander où on est le plus compétent, quelque chose qui nous passionne, qui nous touche et sur lequel on se lassera pas. Et moi, le sujet du féminin avec le yoga, c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Il y avait autre chose qui me touchait, c'était le stress, mais le stress et le yoga, un petit peu tout le monde le fait. Donc j'avais envie de trouver quelque chose de plus personnel, tout simplement. Et donc j'ai décidé de me nicher dans le yoga et l'endométriose. Et à partir de ça, il a fallu que je bifurque tout. Donc j'ai bifurqué sur mon compte Instagram. J'avais un petit peu peur de redémarrer tout à zéro, même si je pense que ça m'a un petit peu coûté en termes d'engagement au début. Donc j'ai rebifurqué mon compte Instagram, mais je suis pas repartie d'un compte Instagram à zéro.
Ouais, t'as gardé le même compte, mais t'as démarré avec un nouveau positionnement. En fait, on a refait la bio, quoi, finalement, on va dire. Et puis, t'as démarré avec une nouvelle ligne éditoriale. Enfin, tu vas nous en parler, mais voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a souvent la question est-ce que une fois que j'ai choisi mon positionnement, je reprends un compte avec zéro abonné parce que j'ai envie que ça soit propre. Hein. Souvent, c'est un peu ça. On veut effacer le reste. Et puis voilà. Et donc toi, t'as gardé ton compte, mais voilà, t'as pivoté.
Oui, parce que ça me faisait un peu peur, en fait, de me retrouver avec zéro abonné, de devoir tout recommencer, sachant que ça faisait à peu près un an depuis que j'avais prévu de faire mon teacher training, et puis pendant mon teacher training, où j'avais un peu travaillé à reprendre mes réseaux sociaux, qui étaient mes réseaux sociaux perso de base en yoga. Donc j'avais, 500 ou 600 abonnés à l'époque et ça me faisait très peur de retourner à zéro, ce qui au final n'aurait pas été une mauvaise chose parce que du coup je me suis retrouvée avec une baisse d'engagement au début, c'est-à-dire que les abonnés qui étaient là n'étaient pas forcément tous intéressés par ce que je faisais, donc forcément ça a un petit peu fait stagner mon compte au début, mais maintenant je m'en sors plutôt bien, donc à la réflexion, peut-être que j'aurais fait différemment, mais ça a pas non plus été un gros poids pour moi. Ensuite, j'ai aussi rebifurqué mon podcast, du coup, qui est un podcast de développement personnel que j'ai aligné avec ma ligne éditoriale qui était le yoga et l'endométriose, pour que ça soit vraiment un véritable levier qui me permette de me faire connaître de un. Puisque comme tu l'expliques très bien, le podcast c'est quelque chose qui est référençable sur internet, donc quand on cherche yoga et endométriose ou ce genre de choses, on tombe sur mon podcast, et donc ça permet de me faire découvrir, ensuite de rabattre les gens sur mes offres et mon compte Instagram, et aussi c'est un gros marqueur de confiance, c'est-à-dire que ça tu l'expliques beaucoup de fois aussi dans tes podcasts, mais le fait que les gens t'écoutent, entendent ta voix, soient proches de toi et que tu leur fournisses énormément de conseils gratuitement, ça permet de leur assurer en fait à eux que tu es quelqu'un de sérieux, qui a des choses à leur apporter, et donc ils seront forcément plus enclins à acheter, voilà, à opter pour tes offres plus tard. Donc ça a été les deux gros changements que j'ai fait à partir du tout début du Yogi Bizline. Je pense que à partir du premier mois, une fois que j'avais validé et que j'étais sûre de moi, voilà, j'ai rebifurqué tout. Et rien que d'avoir fait ça, je me suis sentie vraiment en phase avec ce que je faisais.
Ouais.
J'étais plus du tout.
T'as trouvé l'alignement.
Ouais, j'étais plus du tout dans cette phase de doute où je suis restée quelques semaines où je me disais je testais des trucs je voyais que c'était pas tout à fait ça, etc. Et à partir du moment où j'ai tout réaligné, et ben c'était parti en fait. Et je me suis plus jamais posé de questions. Et ma bio, je l'ai plus refaite 150 fois. Elle est restée la même.
Ouais.
Et je me suis plus posé la question de me dire alors le et je le mets avant ou après ce mois-là.
Oui, enfin, oui, oui. Après ça, c'est fluide, ouais.
C'est ça. Donc c'était un mal pour un bien. C'était une période assez inconfortable, mais au final, après c'était clair, c'était fixe, et j'ai plus jamais dérogé de cette ligne éditoriale. À partir de ce moment-là, du coup, j'ai mis tout en place la stratégie de contenu, etc., que tu nous conseilles, c'est-à-dire d'avoir un épisode de podcast à peu près par semaine, de rabattre aussi les gens du coup pour aller écouter le podcast via les articles, via les posts Instagram et ce genre de choses, d'être très présent en story, toutes ces choses-là qui ont permis quand même d'assurer une cohérence dans tout ce que je pouvais faire, de mettre en place le lead magnet. Donc au départ, j'en ai mis en place un seul, et ensuite j'en ai mis en place d'autres, ce qui m'a permis en fait de créer des petits événements. Par exemple, à l'automne dernier, j'avais fait un cours gratuit sur Zoom un dimanche soir, et du coup ça m'avait permis d'avoir 150 inscrits sur ma liste email en plus, je crois. Et puis maintenant, je le fais tourner en automatique, ce qui fait que les personnes, elles s'inscrivent et elles peuvent l'avoir direct. On me demandait beaucoup le replay, donc du coup, je l'ai mis rapidement en automatique. Donc, c'est des choses qui m'ont permis, en fait, petit à petit, d'avoir une bonne base d'emails. Et moi, je suis assez cartésienne. Donc, j'avais calculé, en fait, en fonction du taux de conversion que tu nous donnes dans Yogi Bizline, à peu près le nombre de personnes qu'il me fallait dans ma liste email pour avoir à peu près mon objectif de vente pour mon programme. Donc, je m'étais laissé pas mal de temps, hein, puisque j'ai commencé à rebifurquer tout ça au mois de mai-juin. Genre fin mai, je crois que le podcast a rebifurqué. Donc début juin, tout était prêt. J'avais réentamé ma ligne éditoriale et je me suis laissée jusqu'à fin décembre, début janvier pour sortir le programme. Parce que je voulais à peu près 400-500 personnes sur ma liste email. Ça me permettait d'être sécure par rapport à ce que je voulais pour pouvoir lancer mon programme. Donc je me suis laissée du temps. Entre deux, j'ai quand même sorti des petits ateliers en ligne, ce qui m'a permis aussi de tester ma base d'email, de tester les lancements, de tester aussi Systemio. Tout ça, ce qui m'a permis aussi de me rassurer quand j'ai sorti Renaissance, donc mon programme en ligne, c'était des outils que j'avais l'habitude d'utiliser. J'avais déjà fait des lancements, donc tout ça était plus calé et c'était plus serein pour moi. En fait, la seule zone d'inconnu que j'avais, c'était le nombre de ventes que j'allais faire. Mais tout le reste, je connaissais déjà. Donc, il m'a fallu 6 bons mois, un peu plus de 6 mois pour vraiment construire une base d'email solide, une base de communauté Instagram solide, pour que je me sente prête en fait à sortir le programme et à faire les ventes que je voulais.
Oui. Alors on va effectivement après aborder le programme, et du coup juste un petit peu pour revenir sur tout ça, ce que j'ai trouvé intéressant de mettre là où tu as mis le doigt, c'est le fait que on traverse forcément une période un petit peu inconfortable quand on cherche son sweet spot, hein, son positionnement, sa niche. Bah déjà, il y a un gros travail d'introspection, je pense. Donc c'est forcément ça emmène effectivement un petit peu d'inconfort d'une part. De deux, ça peut prendre du temps aussi. Et bon là, toi, tu t'es laissé le temps de communiquer, de développer effectivement ta stratégie de contenu, etc. Bon aujourd'hui aujourd'hui, dans la nouvelle version de Yogi Bizline, on est plutôt à aller tester et valider son programme effectivement plus rapidement et ensuite à accélérer et à mettre de l'énergie dans la communication et la visibilité. Mais dans ton cas, ça a bien fonctionné. Pourquoi ? Parce que justement, tu avais un positionnement très clair, très différenciant et donc c'était intéressant effectivement. Et puis, tu avais aussi des deadlines, enfin, c'est-à-dire que tu étais très engagé au niveau de ton business, tu savais là où tu voulais aller. Donc, ce n'était pas de la stratégie de contenu qui t'a ralenti ou qui t'a fait procrastiner. Au contraire, c'est une stratégie de contenu sur laquelle tu avais fixé des objectifs et dans l'optique de sortir ton programme en ligne. Donc, à partir de là, c'est complètement viable. D'ailleurs, moi, je suis passée aussi par là quand j'ai développé Yogi Bizline, mais je savais que j'irais au bout. Et le risque, en fait, quand on commence par de la stratégie de contenu sans avoir d'idée d'offre, sans savoir où on veut aller, sans se fixer des objectifs, sans se poser des deadlines, bah, c'est effectivement que du coup, on laisse traîner, on s'éparpille, on n'a pas de positionnement fixe, etc., etc. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus touchy, surtout aujourd'hui, de développer son chiffre d'affaires si on n'a rien à vendre, effectivement. Donc, juste, je précise par rapport à ça, parce qu'on pourrait se dire, bah, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, créer du contenu, ensuite, créer son offre, ou d'abord, créer son offre. Bah, voilà, ça peut dépendre des cas de figure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est clair que tu as construit un écosystème et une stratégie de contenu bétonnée. Alors oui, je suis un peu fière parce qu'effectivement, ça respecte tous les préceptes qu'on voit dans Yogi Bizline, de recyclage, etc., d'avoir une vitrine, donc qui pour toi est Instagram, d'avoir un contenu principal et référencé qui pour toi est le podcast et puis bien évidemment à côté de ça une stratégie d'emailing. Donc c'est vraiment, je dois reconnaître qu'Alice est quand même l'élève la bonne élève vraiment donc voilà hein, le positionnement et puis ensuite tout ce qui va derrière, donc c'est parfait mais voilà, mais on passe par des moments qui peuvent être inconfortables, on passe par des questionnements, je repars de zéro, j'ai moins d'engagement. Donc voilà, c'est le moment où il faut pas lâcher et se dire « ah bah ça marche pas » ou « j'y arriverai pas » ou « ça marche moins bien qu'avant », etc. Voilà, il faut aussi donner le temps aux gens de nous découvrir, d'arriver, de nous faire confiance, de s'engager, d'optimiser ses actions. Donc c'était important effectivement que tu le dises. Et donc une fois que tu as eu développé tout ça, commencé à développer ta liste email, du coup là tu t'es concentré sur ton programme Renaissance. Alors est-ce que tu veux nous parler maintenant de cette étape, comment tu as procédé, dans quel ordre un petit peu, et puis et comment ça s'est passé et combien tu avais de personnes à ce moment-là, justement, parce que comme tu as travaillé sur ton contenu en amont, peut-être sur ton compte, dans ta liste email, etc.
Oui, alors Renaissance, donc c'est mon programme en ligne. Alors là, je dis programme en ligne parce qu'on est dans du business, etc. et que ça parlera plus aux gens qui nous écoutent si je dis programme en ligne. Moi, je l'ai vraiment conçu comme un accompagnement et je parle plus d'accompagnement en fait quand je communique dessus parce que le but, c'est pas juste d'avoir un programme où les personnes qui s'inscrivent, les élèves consomment du contenu, ne terminent jamais le programme et passent à autre chose. J'ai vraiment conçu ça comme quelque chose avec du suivi. Donc, il y a un groupe WhatsApp et il y a aussi des lives en fait Zoom toutes les deux semaines pour pouvoir les accompagner justement. Donc moi, c'était vraiment mon but avec ce programme, c'est de pouvoir avant tout accompagner les personnes, leur proposer des solutions qui les aident avant tout, mais aussi leur proposer de l'écoute et un suivi pour pas qu'elles lâchent, parce que l'endométriose, c'est une maladie qui est quand même assez douloureuse. C'est compliqué de trouver des solutions pour soulager. Et les solutions naturelles, c'est pas non plus des solutions miracles. C'est-à-dire que le yoga, c'est pas voilà un cachet d'opium ou un doliprane. Mmh. C'est pas un truc qu'on prend et en 5 minutes ça fait effet. Ça demande de la rigueur, ça demande de l'investissement. Et donc c'est des choses où on peut être tenté en fait de se dire oh, bah c'est pas pour moi, ça marche pas et de passer
comme Instagram.
Exactement, comme Instagram, comme le marketing en ligne, etc. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui demandent de l'engagement. Mm. Et donc, j'ai construit vraiment ce programme autour de ça. À l'intérieur, il y a évidemment du yoga, des séances de yoga, mais également des séances de méditation et beaucoup de développement personnel, un tout petit peu de nutrition. Et je l'ai vraiment aussi construit step by step, donc un peu avec des étapes mindset à passer, en fait. La première étape, c'est déjà de poser les bases, donc c'est de faire un petit peu un point sur sa relation avec la maladie, d'essayer aussi d'entamer une relation un petit peu plus apaisée avec son corps, de se reconnecter à lui, de gérer les douleurs, de trouver un mode de vie et un mode d'alimentation qui lui convient, et ensuite aussi de gérer tout ce qui est stress, fatigue, et aussi relation à sa féminité qui est vachement entachée avec l'endométriose. Mm-hmm. Donc c'est un petit peu un programme qui monte crescendo et je l'ai construit pour ça en fait. Un petit peu comme Yogi Bizline, on part de zéro et on arrive à quelque chose avec un programme ou un membership à la fin. Là c'est pareil, je voulais qu'il y ait quand même, comme tu dis souvent, une transformation, et donc je l'ai construit comme ça. Donc j'ai, pour le lancement, j'ai suivi à la lettre tes préceptes, c'est sûr, comme d'habitude.
Ma bonne élève.
Oui, mais tout le monde me le dit, c'est-à-dire que dans ma formation de yoga teacher training, selon ma formatrice, j'étais l'élève studieuse et j'ai tendance à suivre à la lettre beaucoup de choses parce qu'en fait, je pense que ça me rassure d'avoir des petites barrières sur mon chemin et c'est aussi quelque chose auquel je me suis raccrochée en fait pour développer mon programme. Comme tu dis, effectivement, j'ai fait beaucoup de création de contenu avant de développer le programme, mais c'était pour une raison, c'était parce que je voulais me rassurer et je savais qu'il me fallait à peu près tant de personnes sur ma liste email pour rentrer dans mes objectifs. En fait, à la base, je voulais le lancer en septembre, le programme, quand je me suis inscrite à Yogi Bizline en avril. Et je me suis rendu compte, en fait, au mois de juin-juillet, que ça allait être trop court. En plus, c'est les vacances. Ouais. Donc, ils sont un peu moins engagés sur Instagram, etc. Mais à la place, du coup, pour pas me démotiver, j'ai lancé un atelier.
Oui,
en ligne. Déjà un pour tester.
Oui, je me souviens très bien. Ouais.
Et également aussi pour pas juste repousser parce que sinon en fait le programme je pouvais le repousser jusqu'à 2024, c'était pareil quoi. Donc je me suis lancée des deadlines comme ça et j'ai vu effectivement que le programme en ligne, l'atelier en ligne avait bien marché et donc je me suis mise focus à partir de septembre octobre sur cet objectif de lancer mon programme en ligne en janvier. Donc j'avais vraiment prévu à l'avance, c'est-à-dire que en septembre-octobre, comme je l'ai déjà expliqué, j'avais lancé ce petit cours en ligne du dimanche soir qui m'avait permis de faire un grand bond dans ma liste email. J'avais aussi lancé une ou deux interviews sur le podcast pour permettre de me faire connaître à ce moment-là. Et à partir en fait de fin novembre, début décembre, je travaillais déjà sur la landing page, la liste d'attente et toute la promotion de mon programme qui se déroulait en janvier. C'était quelque chose que j'avais préparé à l'avance. Donc voilà, à partir de septembre, j'étais vraiment focus sur mon objectif. Donc au final, ça m'a permis de pas procrastiner.
Ouais.
Et de me laisser le temps de bien tout prévoir avec le challenge qui m'a aussi, le challenge gratuit qui m'a aussi pris pas mal de temps, mais qui a porté ses fruits parce que j'avais à peu près 200 inscrites. Donc j'ai fait pas mal de ventes grâce à ça. Et tout ça m'a permis en fait d'être prête pour c'était la fin janvier pour lancer le programme. Donc ça a été assez intense parce que déjà j'enchaînais les deux, j'enchaînais mes cours plus le yoga à côté. En décembre j'avais eu mes partiels, donc c'était assez intense de tout gérer, mais c'est pour ça en fait que je voulais aussi m'y prendre bien à l'avance, c'est-à-dire que je voulais pas me retrouver trois semaines avant à devoir tout prévoir parce que je savais que ça rentrerait pas du tout dans mon planning et que c'est pas non plus la bonne idée de s'épuiser avant un lancement. Donc je voulais vraiment tout prévoir à l'avance pour être prête le jour J, le jour du lancement, et pouvoir proposer quelque chose de plus le plus concret, le plus préparé possible, sachant que j'ai fait un système de prévente. Donc j'avais pas mon programme de prêt le jour où je l'ai vendu. Donc j'avais pas non plus envie de laisser les personnes sur un programme en ligne vide. Donc j'ai laissé un délai 3 semaines pour permettre de créer un maximum de contenu, mais par contre je voulais que quand les gens se connectent sur Systemio, ils puissent avoir déjà quelques trucs à se mettre sous la dent en fait. J'avais préparé la page d'accueil, le planning des lives, le mot de bienvenue. J'avais aussi préparé une ou deux ressources qui puissent lire avant de se préparer, pour se préparer, pour avoir toutes les clés en main pour commencer le programme, histoire qu'ils aient des trucs à se mettre sous la dent et qu'ils soient pas sans rien en attendant du programme. Donc ça c'est pareil, ça m'a mis du temps, je voulais vraiment que ça soit quelque chose d'assez pro. C'était mon premier programme, mais je voulais pas non plus que ça fasse quelque chose d'artisanal. Donc tout ça, ça m'a mis beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps. Après, tout était prêt. J'ai bien suivi toutes tes règles.
Je vois ça.
À la lettre.
Alors, là, je peux vous dire que Alice, je pense qu'on peut voter pour qu'elle devienne
futur coach business dans Yogi Bizline. J'ai rien à dire, c'est les étapes, voilà, l'une après l'autre, tout y est. La préparation effectivement du lancement, le rétro-planning, voilà, tout ce qu'il fallait. Et puis effectivement la prévente, donc ça, point important quand même, parce que je le rappelle que dans Yogi Bizline, on apprend en fait, on vend son idée, et ensuite, ben, on passe effectivement à la création du programme. Alors de deux manières, hein, soit effectivement en prévente, comme tu l'as choisi Alice, soit en mode bêta-test, où c'est plutôt une version, on va dire minimaliste. Un produit minimum viable, une version minimaliste de la future version, de manière à pouvoir la co-créer et l'ajuster. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. Et je trouve intéressant de pas t'avoir mis de pression, entre guillemets, en termes de timing, et d'avoir su de toi-même aussi te dire, bon, bah voilà, c'est à peu près ce qu'on voit, enfin mes recommandations, on va dire globalement, c'est un travail qui dure sur 45 jours à peu près, entre le plan de lancement, le préchauffage, enfin le pré-lancement, donc tout ce qui est stratégie de contenu pour réchauffer l'audience, le matériel de vente, donc comme tu le disais, la page d'inscription, la page de vente, mais aussi les événements de lancement. Donc toi, tu as choisi de faire un challenge. Bon, bah tout ça, effectivement, moi, je préconise, ou en tout cas, j'estime à 45-60 jours la préparation de l'ensemble de tout ça. Et toi, voilà, tu as fait courir ça finalement sur septembre, octobre, novembre, à peu près 4 mois, ce qui est complètement juste quand on a à côté une occupation à temps plein, je pense, hein, effectivement.
Oui, oui, et c'est pour ça aussi que je me suis laissée autant de temps avant de créer mon programme. C'est parce que mon revenu ne repose pas sur le yoga actuellement. Oui, ouais. Et donc, ça me permettait aussi de me laisser le temps de construire step by step voilà ma stratégie de contenu, d'avoir des choses qui soient très, très carrées. Parce que je pense que ça n'échappera pas à tes auditeurs que je suis organisée. donc j'avais vraiment voilà envie que tout soit bien calé. Aussi, avoir voilà une zone de confort d'un certain nombre d'abonnés sur ma liste email. Alors les abonnés Instagram, ça veut pas forcément dire grand chose, mais par contre les abonnés sur liste email, c'est important. Et donc voilà, je savais il fallait que je sois dans une zone assez confortable qui me permettait de me rassurer aussi et de pas me foutre une pression énorme sur un truc au final. Voilà, qui se vend, mais c'est toujours la peur. C'est toujours la peur qu'on a, c'est de créer un truc qui ne se vend pas. C'est aussi pour ça que j'ai opté pour la prévente.
Ouais.
C'est que moi, j'ai passé mes soirées, mes samedis, mes dimanches et mes vacances sur Renaissance. Et donc, clairement, je pense que ça m'aurait dégoûté à vie si j'avais créé tout un programme et que j'avais pas rempli mes objectifs, parce que j'ai sacrifié, voilà, par exemple, mes vacances de Noël. J'ai quand même beaucoup bossé. J'ai dû me laisser 2-3 jours entre Noël et Jour de l'An pour un peu me reposer. Mais sinon, j'étais renaissance à fond. Ça m'a pris des dizaines d'heures. Et donc, voilà, je préférais m'assurer le coup en faisant exactement tout comme il faut. Et en optant pour la prévente, que je puisse en fait tout simplement bifurquer si j'avais pas voilà les ventes qui allaient avec quoi.
Alors qu'est-ce que ça a donné du coup en termes de résultats cette prévente ?
Alors ça a donné des grosses paniques et des grosses sueurs froides, mais ça a surtout donné 10 ventes, ce qui était mon objectif. Je m'étais donné une fourchette basse à 5 ventes,
ouais.
Une fourchette haute à 10 ventes, et en fait j'étais dans la fourchette haute, et donc ça a rempli plus que mes espérances. Au final, tout a payé. C'est pour ça aussi que je voulais tout suivre à la règle, comme Cécile nous dit de faire, parce que j'aurais eu, je pense, beaucoup de remords si j'avais pas fait tout comme il fallait, entre guillemets, parce que je pense qu'il y a des multitudes de façons de faire. Mais j'aurais eu des remords en me disant j'ai pas tout fait pour, où j'ai pas été à mon maximum. Là, je savais que j'étais à mon maximum, que je pouvais pas faire mieux en termes de contenu par rapport au temps que j'avais. Et donc, j'étais plus que ravie quand j'ai vu les ventes. Je me rappelle très bien t'avoir envoyé un message en panique le soir, un samedi soir, le lendemain du lancement.
Ouais, voilà, c'est ça. T'as eu tes... Ouais, c'est ça. Ouais.
Et j'étais complètement paniquée et tu m'avais dit mais ça va venir et moi j'ai remetté tout en question et en fait c'est venu et après ça fait généralement effet boule de neige, c'est-à-dire que une fois qu'il y a 1, 2, 3 ventes, tout le monde se rue sur le truc alors que ça fait 48 heures qu'il y a personne qui achète. J'avais aussi fait le petit truc des post-it. Ouais. Ça me fait penser à Laurane aussi qui avait fait mais j'avais fait le truc des post-it justement parce que alors c'était déjà un truc que j'avais fait, que j'avais envie de faire et j'avais vu Laurane le faire sur sur son programme quelques semaines avant et je me suis dit oh, faut que je le fasse et alors au début du coup j'osais pas parce que franchement un post-it sur un mur ça fait un peu ridicule quoi. Au fur et à mesure en fait j'en rajoutais et plus j'en rajoutais plus j'avais de ventes. Mais c'est un peu ça hein, c'est l'effet un peu la preuve sociale, c'est-à-dire que il y en a, ils y vont, bah du coup j'y vais aussi.
Mais oui, ça aide à la décision pour certains. Ouais, tout à fait. Et puis ça nous fait plaisir, enfin moi je sais que j'ai des super souvenirs de ça. Alors moi, je le faisais avec mon fils. En plus, c'était un petit jeu pour lui aussi, de manière de le faire participer à tout ça. Mais effectivement, c'est bien au-delà que juste un post-it avec un nom sur un mur. Exactement. C'est nos membres, c'est les personnes qui nous font confiance, c'est des personnes qui viennent travailler avec nous. C'est voilà, on a notre offre, on est tellement, enfin voilà. Et effectivement, au-delà de ça, stratégiquement, ça amène de la preuve sociale et ça aide à la prise de décision pour certains carrément. Mais je me souviens oui très bien de ton lancement et voilà. Donc ça c'est pour tout le monde, du novice, de premier lancement à un lancement plus abouti ou même quand on génère des lancements à plusieurs millions d'euros. Il y a toujours des creux, c'est toujours un petit peu les montagnes russes, le lancement. Et moi, ce que j'aime bien dire, hein, c'est surtout, faut pas lâcher, faut aller jusqu'au bout du plan. Parce que c'est aussi le fait d'aller jusqu'au bout du plan qui va faire qu'après, même si ça fait pas de vente et c'est OK, c'est l'entrepreneuriat, ça marche pas à tous les coups, hein, les offres, ça marche pas à tous les coups. Mais par contre, quand on va jusqu'au bout du plan, ensuite, on peut venir regarder justement… pourquoi, où ça a pêché, qu'est-ce qui n'a pas été, etc. Et donc, je trouve que ça, c'est tout autant d'ailleurs intéressant si on doit le faire. Donc, en tout cas, ça a été un lancement successful. Alors, évidemment, hein, je suis encore plus ravie quand ça fonctionne, c'est certain. Et donc, du coup, donc le fameux système de prévente, hein, en fait, on prépare le contenu pour réchauffer entre guillemets les gens, en tout cas pour voilà les préparer à ce qu'il y a dans notre programme, pour lever les objections, pour lever les freins, peut-être créer aussi le shift de mindset nécessaire à se dire ok, c'est la bonne personne, c'est ce que je recherche, c'est ce dont j'ai besoin, etc. On crée le matériel de vente en amont, mais effectivement, quand on vend notre programme, hormis un module de bienvenue ou peut-être voilà quelques audios, quelques vidéos, ben, tout l'ensemble du programme, alors il est structuré, on sait où on va, on sait quelles sont les leçons qu'on va produire, on sait quels vont être les formats de nos différentes leçons, etc. Mais rien n'est encore fait. Est-ce que cette période-là, du coup, ça a été pour toi qui devais cumuler ça en plus avec tes autres occupations ou comment ça s'est passé?
Ça a été moins intense en fait que la phase de lancement.
Ouais, d'accord.
Que, déjà la phase de lancement, elle a duré assez longtemps comme tu l'expliquais tout à l'heure, vu que j'ai commencé à réfléchir vraiment au contenu du programme à partir de décembre. Ça a été quand même beaucoup de boulot sur pas mal de semaines, donc c'était fatigant physiquement et moralement. Mais comme tu disais, j'avais tout de prêt, c'est-à-dire que pour construire notamment ma page de vente, il fallait que je sache dans les modules, dans chaque module, ce qu'il y avait. J'avais tout en fait, j'avais des papiers partout avec mes modules et ce qu'il y avait dedans, des mind maps de partout. Et je savais en fait exactement que dans le module 4, il y avait tel truc, il y avait deux méditations, le sujet des méditations, la durée, le format. Donc du coup là, c'était un format podcast, mais pareil pour les cours. Je savais tout. Et donc quand j'ai dû tout simplement après le lancement créer le contenu de la formation, au final, ça m'a pas demandé tant que ça et tant d'organisation, vu que j'avais déjà tout prévu. Il a fallu juste que je fasse de la création de contenu. Donc ce qui a été assez challengeant pour moi, c'était plutôt le côté enregistrer des cours en ligne, parce que c'est toujours ça demande déjà beaucoup d'énergie d'être face cam, etc. Ça demande aussi un peu d'investissement financier, justement de commander 2-3 lumières. Oui. Ça, c'est des trucs que j'ai commandé une fois que j'étais sûre d'avoir suffisamment de ventes, parce que je voulais pas commander mon matériel pour rien. Donc,
mais c'est l'avantage aussi.
Mes 5 ventes. Ouais, tout à fait. C'est l'avantage de la prévente, c'est-à-dire que s'il y a un investissement de matériel à faire, vous n'avez pas forcément besoin de le faire tant que vous n'êtes pas assuré d'avoir les ventes. Mmh. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, ça m'a pas coûté très cher mon éclairage, mais il fallait quand même que je l'achète. Et donc, j'ai attendu d'avoir suffisamment de ventes, donc je pense au moins 5-6 ventes, pour me dire je l'achète et je l'aurai la semaine prochaine et comme ça je commence à tourner. Et ensuite, je m'étais laissée à peu près 3 semaines de battement entre la fin des inscriptions et le début du programme, sachant que du coup pendant les inscriptions, à partir du moment où j'avais déjà 5 ventes, j'ai commencé déjà à créer le contenu. Oui. Je savais que c'était validé, que c'était bon et que j'allais le faire. Donc, j'avais 3-4 semaines devant moi pour créer les modules. Sachant que c'était une période qui était assez creuse au niveau de mes cours, où j'avais peu de cours, mais je savais qu'après, le rythme allait s'accélérer. Donc, j'ai essayé de faire un maximum de choses pendant ces 2-3 semaines, enfin ces 3-4 semaines, pour tout simplement avoir un petit peu d'avance aussi. C'est-à-dire que pendant les 3-4 semaines de battement, j'ai fait un peu plus de la moitié des modules. Donc, j'ai fait jusqu'au module 4, donc les 4 premières semaines de mes 8 semaines d'accompagnement. Comme ça, je savais qu'après, si je faisais un module de contenu par semaine, j'avais large le temps et je pouvais, même si je me laissais surprendre un peu par mes cours ou par mes révisions ou quoi que ce soit, je savais que j'avais un peu de large, quoi. Mm-hmm. Et j'essaie toujours de prévoir, que ça soit au niveau de mon podcast ou au niveau de mon contenu sur Instagram, c'est d'avoir toujours un petit peu d'avance. On sait jamais, on tombe malade, on a une semaine de rush ou ce genre de choses. Au moins, c'est pas la panique de dire faut monter sur le tapis pour monter les vidéos, faut enregistrer le podcast. Tout bêtement, par exemple, là, je suis tombée malade cette semaine. J'ai eu des difficultés, par exemple, à enregistrer les épisodes de podcast. Et ben, c'est pareil, en fait, tout simplement pour les méditations du programme. Si je tombe malade et que je peux pas enregistrer la méditation pour le module de la semaine d'après, c'est un peu ballot. Donc là, j'avais enregistré toutes les méditations de tout le programme avant le début du programme. J'avais fait plus de la moitié des cours. Il y avait une grosse partie des ressources écrites qui avaient été faites aussi, donc j'avais pris beaucoup d'avance, ce qui m'a permis un peu après de gérer en fait tout ça un petit peu plus fil de l'eau, quoi.
Et donc t'avais batché du coup parce que quand tu dis j'avais enregistré toutes les méditations, t'avais un peu fait des sessions où t'enregistrais plusieurs méditations.
Ouais, j'avais batché les méditations parce que j'habite en ville et que donc il y a peu de moments où c'est très très calme.
Oui,
donc,
je connais ça. Podcast,
c'est pas gênant pour les épisodes de podcast parce que généralement je parle quasiment sans discontinuer, donc s'il y a un klaxon ou un truc comme ça, c'est moins gênant. Mais sur une méditation, ça peut être vite dérangeant pour la personne. Donc j'avais batché et j'enregistrais le samedi et le dimanche matin entre 7h30 et 9h. c'était pas super agréable, mais il y avait que à ce moment-là en fait où la rue était calme. Et à partir de 8h45, généralement, surtout le dimanche matin, il y a le marché, donc c'était de nouveau beaucoup de circulation, beaucoup de bruit, quoi.
Et ouais, c'est Tetris parfois, hein, pour créer du contenu entre la luminosité, le son.
C'est ça, et c'est pareil pour en fait les cours de yoga préenregistrés. Il fallait que je les enregistrais en hiver, hein, donc il fallait que ça soit plutôt le matin. Donc je profitais généralement quand je commençais les cours un petit peu plus tard, ou quand j'avais une matinée ou une journée de libre dans mes cours, en fait, pour enregistrer 2, 3, 4, 5 cours. Alors après, c'était pas des cours très longs, hein. Les cours qu'il y a dans Renaissance, c'est entre 15 et 45 minutes. Donc ça me permettait aussi de pouvoir en enregistrer plusieurs à l'affilée. Si c'était cours d'une heure, c'était un petit peu plus compliqué.
Ouais.
Mais ça m'a permis de prendre l'avance. Et du coup, ça n'a pas été plus compliqué que ça pour moi de pouvoir suivre en fait le rythme de création du programme.
Et du coup, maintenant, on a un programme qui est, ça y est, qui est, où tous les enregistrements sont faits, tous les modules sont faits, et qui peut maintenant, pour le coup, être vraiment vendu une deuxième fois, commercialisé une deuxième fois, et là, avec tout ce travail qui est déjà fait et qui est plus à faire, en fait. Hein. Donc là, on rentre vraiment dans ce qu'on appelle, où on échange de moins en moins son temps, entre guillemets, contre nos clients. Voilà, il n'y a plus d'échange de temps argent, même si voilà, ça va toujours nécessiter de la création de contenu, ça nécessite toujours d'en parler, de le promouvoir, mais c'est créer entre guillemets une bonne fois pour toutes. Je dis une bonne fois pour toutes parce que je sais, et on est toutes pareilles, on veut toujours refaire des choses, ajouter des choses, voilà. Mais globalement, là, ça y est, t'es prête pour le vendre à un nombre illimité de personnes sur un prochain lancement.
C'est ça, et je planifie du coup déjà le lancement. Je suis déjà en train de, en train de m'occuper de tout ça, puisque là, la première promo de Renaissance s'est terminée il y a 2 semaines maintenant à peine. Donc mes 10 petites élèves, voilà, ont terminé l'aventure Renaissance, en tout cas pour ce qui est de l'accompagnement.
Oui.
Zoom, puisque elles ont bien sûr accès encore aux ressources pour le temps qu'elles veulent. Mais donc, ça me donne envie de remettre le pied à l'étrier assez rapidement pour une deuxième promo. J'ai commencé à en reparler un petit peu, à recommuniquer dessus. Je reprépare une petite liste d'attente, même si je pense que ça sera pas pour, tout de suite, en tout cas pas, voilà, pas pour dans un mois, mais pour pouvoir voilà reconstituer au fur et à mesure une petite liste de personnes intéressées. Et effectivement, je n'aurai plus le contenu du programme à créer. Alors, je prévois des améliorations, des petites choses en plus. Mais du coup, j'aurai le temps pour créer tout ça, pour les imaginer, et je serai pas forcément en train de recréer de nouveau tout, toutes ces choses-là, et je pourrai me concentrer à 100% sur le lancement et sur les améliorations que je veux en faire. J'attends aussi voilà les petits retours de mes élèves de la promo 1 pour pouvoir améliorer tout ça, voir ce qui leur a manqué pour pouvoir tout simplement faire mieux la prochaine fois.
Oh, c'est trop chouette. Je suis trop contente d'entendre tout ça parce que voilà, ça y est, tu voles de tes propres ailes. L'écosystème est en place, la formation est en place, enfin le programme, l'accompagnement, comme tu le dis. Renaissance est en place, va pouvoir venir aider de nouvelles personnes. Parce qu'en plus, voilà, c'est un vrai sujet touchant, l'endométriose, et dont on a vraiment besoin de gens comme toi pour le relayer et pour aider. Donc, du coup, c'est vraiment super. Longue vie à Renaissance, hein, j'espère vraiment que il y aura encore. Tu gardes le système de cohorte, du coup, pour l'instant?
Ouais, pour l'instant, oui. J'aimerais bien parce que vraiment, je crois que le gros plus de l'accompagnement, pour le coup, ça a été ce
petit groupe intimiste,
cette mini communauté en fait, que ça soit sur le groupe WhatsApp ou que ça soit via les Zooms, et donc je me vois pas trop le proposer pour l'instant sur quelque chose qui serait automatisé où les personnes pourraient rentrer n'importe quand. Et aussi ça me demanderait en fait de faire des Zooms toutes les 2 semaines ad vitam aeternam,
oui,
en tout cas en continu, et pour l'instant j'ai pas la disponibilité en temps et en énergie pour le faire, donc pour l'instant je préfère que ça reste sur du lancement. Après, je n'exclus pas l'idée de le faire tourner, peut-être de faire évoluer l'offre, pourquoi pas peut-être un jour vers un membership, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais garder le côté lancement parce que je trouve que ça fédère et après, ça fait des jolis petits groupes qui s'entraident et qui se conseillent. Et les filles me l'ont dit, en tout cas pour elles, c'est vraiment quelque chose qui a été super important et primordial. Donc, je ne me vois pas enlever ça tout de suite, ou en tout cas, il faudrait, dans ce cas-là, que je trouve une autre façon de faire communiquer. Et pour l'instant, je trouve que ce format-là me convient et convient à mes élèves. Donc, pour la deuxième promo, en tout cas, ça restera comme ça. Je pense que je ferai un lancement avec une promo, des portes qui se ferment, des portes qui s'ouvrent et voilà.
Et du coup, quel est l'avantage ou l'intérêt pour toi d'avoir choisi WhatsApp plutôt qu'un groupe Facebook, par exemple, ou qu'un autre support communautaire ?
Je trouve ça plus intimiste. Personnellement, les groupes Facebook, j'ai du mal à y aller régulièrement. Et là, ça fait un petit système de messagerie vraiment instantané, hein, et ça pousse du coup à la convivialité tout de suite, à l'intimité. Et par exemple, les filles, elles se partagent des fois en photo leur repas anti-inflammatoire, etc. dans le groupe. Ça donne des idées à tout le monde. Elles se répondent et c'est quelque chose voilà qui tourne en permanence. Elles peuvent s'envoyer des messages à n'importe quel moment sans forcément que moi je leur réponde. Et ça s'auto. Je trouve que ça s'auto-alimente plus facilement qu'un compte Facebook. Et le fait que ça soit aussi un fil de conversation, en fait, ouais, un espèce de chat, je trouve que bah, pour des petites communautés, en tout cas, c'est plus gérable. Je vois, par exemple, toi, pour Yogi Bizline, avec je sais pas combien de membres, ça devient compliqué à gérer, un groupe WhatsApp. Mais pour des petits membres comme ça, je dirais en dessous de 15-20 personnes, cohortes, c'est tout à fait gérable. Ouais.
T'as raison, et je pense que c'est peut-être même effectivement une meilleure option. Alors, il y a Telegram aussi qui est très bien dans le même genre aujourd'hui. WhatsApp, Telegram, etc. Je pense que, enfin, effectivement, ça peut être des canaux appréciables. Alors, comme tu le dis très justement, et donc du coup, c'est pour ça que c'était intéressant de te poser la question. Je pense que, en tout cas, WhatsApp, c'est intéressant, mais effectivement, quand il n'y a pas beaucoup de personnes. Sinon, le truc, ça n'en finit pas. Il y a des notifs toute la journée. Quand on n'est pas connecté, il y a 50 000 messages. Enfin, voilà, on n'arrive pas à tout suivre. Ou alors, il faut passer son temps à regarder son téléphone et WhatsApp. Mais je trouve que c'est un point intéressant pour, effectivement, des cohortes et plutôt des petites cohortes. Donc, super idée d'avoir choisi, je pense WhatsApp. Et puis alors j'aurais une dernière petite question pour toi, Alice, du coup, puisque on arrive bientôt à la fin de cette interview. Parce qu'on a l'impression quand même que t'es, voilà, alors effectivement, oui, t'es très organisée. Alors d'ailleurs, j'en profite, hein, là, j'ai vraiment une annonce à faire. Alice va intervenir dans Yogi Bizline au mois de juin. Et nous faire un atelier aux petits oignons sur Notion, comment utiliser Notion pour son contenu, notamment son calendrier éditorial, Instagram, j'imagine que voilà, plein de choses qui vont en découler. Donc voilà, en gros, si vous voulez le super atelier Notion avec Alice, eh ben il faut rejoindre Yogi Bizline.
L'argument voilà. Qui tue.
L'argument qui tue. Donc en tout cas, ça, on l'a bien compris. Justement, alors du coup, quand tu nous en parles, on a l'impression voilà, t'es tellement organisée, impliquée, responsable de ton business, engagée, et en même temps voilà que finalement tout a l'air hyper fluide, les choses se sont faites étape par étape. Bon, un petit inconfort au début, le temps de trouver ta niche, et puis après ça a déroulé. Alors, est-ce qu'il y a eu quand même des choses plus challengeantes? Est-ce qu'il y a eu voilà des moments voilà plus challengeants pour toi?
Oui, quand même. Hein. Tiens, rassurer tous ceux qui nous écoutent. En plus, je suis quelqu'un d'une nature très stressée. On a l'impression, je pense qu'on peut avoir l'impression quand je parle comme ça que je suis très zen, mais c'est totalement faux. Donc, je suis de nature très anxieuse, et donc évidemment pour mon business, je suis aussi très anxieuse, hein, parce que c'est quand même mon bébé, hein, Endo Serenity. Voilà, c'est quand même quelque chose sur lequel je passe énormément de temps, qui me tient aussi énormément à cœur de par le message que ça véhicule. Et donc, je pense qu'il y a eu deux choses qui m'ont en fait vachement challengée. Alors, c'est plutôt en termes de mindset, parce que en termes de technique, grâce à Cécile et ses tutos Systemio, on n'a pas de problème technique. C'est pas possible. Donc, j'ai pas eu trop de problèmes techniques sur la mise en place, que ça soit voilà sur les réseaux sociaux. Le podcast, c'était quelque chose que j'avais déjà. Donc, j'étais familière avec le montage, familière avec mon hébergeur. Toutes ces choses-là, ça roulait, ça, il n'y avait pas de problème. Les réseaux sociaux, j'adore trouver des petites astuces et tout pour optimiser. Donc, ça, c'est pareil. C'est des choses qui me plaisent. J'avais pas trop de difficultés. Systemio, avec les tutos de Cécile et toutes les explications, c'est quelque chose qui... C'est une plateforme qui est très facile à prendre en main, même quand on a l'impression que ça va être complexe de mettre en place des tickets de paiement, des tunnels de vente, etc. Mais c'est très vite, très simple. En plus, t'expliques quasiment tout dans Yogi Bizline. Donc, avec ça, il n'y avait pas de problème. Ma seule difficulté à moi, c'est moi-même. c'est mes peurs, on va dire. Et donc, il y avait deux principales peurs qui m'ont... Alors, je dirais pas freiné, parce que ça m'a pas empêché, justement parce que j'arrive à me sécuriser. Mais j'avais deux peurs principales. C'était premièrement que, bah en fait, tout simplement, ça plaise pas aux gens. C'est-à-dire que ça n'intéresse personne, que je ne fasse pas de vente. Ça a été notamment le cas pour le programme. J'ai eu très, très peur, en fait. J'ai eu une grosse, grosse phase de doute au moment de lancer le programme. C'est-à-dire que j'avais lancé tout mon challenge la semaine d'avant, donc du lundi au vendredi. Il y avait 5 jours de challenge gratuit, avec des méditations, un petit cours de yoga, etc., pour montrer tout simplement les bienfaits qu'on pouvait retirer d'une pratique de yoga ou de développement personnel de 5 minutes sur ses douleurs et sur son humeur, et sa façon de se sentir. Et à la fin de ça, j'avais prévu un petit live de lancement avec un mini cours de 30 minutes et on embrayait tout simplement sur mon offre qui sortait le soir même. Et donc, j'avais envoyé mon premier mail de vente, le Zoom avec le petit cours, etc. Et zéro vente le soir. Zéro, rien du tout. Je m'attendais au moins à une vente. En fait, ça m'aurait permis de me sécuriser. Surtout que je voyais que les personnes étaient super intéressées, quoi. Rien du tout. Le samedi, zéro vente. Alors là, ça a été panique à bord. Et du coup, mes peurs sont ressorties. C'est-à-dire que je me suis dit, oh, mais si ça se trouve, ce que je propose, ça plaît pas. Si ça se trouve, j'ai pas bien communiqué. Si ça se trouve, j'ai pas forcément montré correctement les bienfaits de ce que je pouvais apporter. Si ça se trouve, ça se vendra pas, etc. Alors, ça m'a pas forcément paralysée dans le sens où je me suis dit, Alice, c'est parti, tu continues, t'envoies les stories, t'envoies, etc. Le seul truc où je pense que ça m'a un petit peu desservi, c'est que j'étais tellement paniquée et stressée que je crois un peu quand même aux énergies positives et négatives. Et du coup, le fait d'être en panique, je pense que ça se ressentait un tout petit peu dans ma communication sur le fait que j'étais tout simplement démunie face au fait que j'avais pas de vente. Donc, je pense que les gens sentaient quand même un petit peu mon appréhension. Mais en fait, après, ça s'est vite inversé. Hein. Il y a eu un inversement de vapeur et j'ai de nouveau fait des ventes et après, ça s'est enchaîné. Donc, ça a pas duré longtemps, mais ça a été une grosse phase de doute. Après, tu m'as bien rassurée sur le fait que fallait pas que je lâche et je voulais pas lâcher. C'était vraiment hors de question. Il fallait que je fasse jusqu'au bout le truc parce que j'aime bien aller au bout des choses et que j'aurais eu un goût d'inachevé. Mais voilà, ça, c'était ma grande peur que ça plaise pas et que je fasse pas de ventes et que j'ai fait tout ça pour rien. Faut aussi dire que quand même j'étais dans un état d'épuisement assez intense après tout ce que j'avais préparé en plus des cours. Donc j'avais vraiment cette grosse peur là. Et la deuxième peur que j'ai pu avoir, que ça soit pendant le lancement mais pendant tout mon parcours d'entrepreneuriat encore maintenant, c'est un peu le syndrome de l'imposteur et l'impression de pas forcément savoir assez, de pas être assez diplômé, donner assez aussi en termes de connaissances. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu fait peur. Alors après, je me soigne entre guillemets, hein. J'essaye de me rassurer comme je peux, mais c'est des petits trucs mindset qui font que rien n'est un long fleuve tranquille, hein. Même si on a l'impression que j'ai réussi tout super facilement, c'est pas vrai. Mais bon, généralement, les entrepreneurs communiquent assez peu sur l'envers du décor et sur le fait qu'on traverse des doutes, hein, comme tout le monde. Surtout quand on est seul dans le navire, des fois, c'est pas toujours facile de faire face aux doutes. Parce qu'on n'a pas forcément quelqu'un à côté comme Cécile pour nous dire « mais non, ça va bien se passer ». Donc, des fois, c'est un petit peu c'est un petit peu challengeant. Mais oui, c'est principalement les deux choses. Donc, c'est pas de la technique, c'est vraiment du mindset. C'est vraiment le fait d'avoir confiance en ce qu'on propose et d'avoir confiance en ce qu'on fait. Ça va de mieux en mieux parce que je me rends compte que finalement, c'est pas si mal ce que je fais.
C'est même très bien.
Et si je peux donner un conseil du coup par rapport à ça, moi la seule chose entre guillemets, le seul remède que j'ai trouvé à ma peur en tout cas de pas réussir à vendre mes offres et de pas réussir à intéresser les gens, c'est tout simplement de me faire accompagner, d'avoir des programmes en ligne comme le tien, et surtout d'avoir une feuille de route et de m'y tenir et de me dire ça a marché pour plein de gens, ça va forcément marcher pour moi, mais il faut que je suive tout à la lettre. Et c'est pour ça qu'en fait je suis aussi studieuse et aussi organisée, c'est parce que c'est une manière de me rassurer en fait et de me dire si je suis tout ça comme il faut, ça va le faire et il y a pas de raison en fait que ça marche pas. J'ai tout mis en place pour, il y a pas de raison et la plupart du temps à 90% ça marche.
Ouais. Bon, déjà, on a les élèves hein, qui nous ressemblent. Et effectivement, c'est ce que j'aime bien dire souvent parce que, alors, c'est vrai hein, que c'est un petit peu mon message à moi qui est un petit peu contre-intuitif par rapport à tout ce qu'on entend, parce qu'on entend souvent beaucoup, il faut le mindset pour que ça marche. Et moi, j'aime bien prendre un petit peu le contre-pied de ça, même si évidemment que oui, il faut y croire, il faut s'engager, il faut oser passer à l'action, etc. Mais j'aime bien l'idée. Enfin, faire passer le message dans le sens, si tu as le plan d'action et que tu as la stratégie et que tu suis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais confiance à quelqu'un qui t'a pas donné ça au hasard, mais voilà, que tu te fais accompagner, que tu suis le plan d'action, dans les moments de doute, c'est le fait de te raccrocher justement à la stratégie et au plan d'action qui va faire que
tu vas passer des barrières, passer des caps, sauter des étapes et donc finalement muscler ton mindset aussi par rapport à ça. Donc ça n'efface pas effectivement les doutes, ça n'efface pas l'impermanence de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. En revanche, voilà, moi je me dis si je prends un coach mindset, tant que je serai pas dans l'action et que j'aurai pas de plan à suivre, je vais peut-être avoir le sentiment qu'effectivement mon mindset il est prêt, sauf que il y a rien à faire au moment de vendre, je vais y être confrontée. Sauf que si j'ai le bon plan d'action pour vendre et que je le suis, même si j'ai des doutes qui viennent me saisir, comme je sais ce que j'ai à faire, je sais où je vais, j'ai de la clarté dans ma direction, dans ma destination finale, c'est plus facile je trouve de s'y raccrocher et donc du coup de réussir à avancer finalement avec ses peurs. Et à leur faire de la place. Et de toute façon, si on peut conclure là-dessus, avoir peur, en fait, c'est avoir un moteur pour avancer finalement, parce que les peurs sont motrices et ce sont, les écouter, les entendre, leur faire de la place. C'est aussi ça qui permet du coup de sortir de sa zone de confort et de faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles. Et donc, bravo à toi, parce que je crois que tes peurs et toi, vous êtes allés très loin dans cette aventure et vous avez plutôt bien réussi ce challenge. Donc vraiment bravo, bravo Alice pour tout ça et merci aussi pour tous tes conseils. Donc c'est quoi la suite pour Endo Serenity maintenant ?
De continuer comme ça, de lancer la deuxième promo Renaissance et peut-être développer un petit format hybride avec peut-être une retraite un jour de femmes atteintes d'endométriose autour du yoga. Ce serait vraiment quelque chose qui me titille et que j'aimerais bien concrétiser un jour. Donc peut-être 2023, peut-être 2024, on verra.
Une belle suite logique, en tout cas, effectivement. Je pense que ça pourrait être vraiment, vraiment super d'associer une retraite à ton programme. On voit ça dans Yogi Peace Line aussi. Ça se fait. On a Marie aussi qui a fait ça avec son offre, son programme et puis sa retraite. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un bon combo gagnant pour la suite.
Oui, j'espère. Et merci encore, Cécile, en tout cas, pour tout ce que tu fais et pour tous tes conseils, hein, parce que mine de rien, si j'en suis là, c'est quand même grâce à quelqu'un. Alors oui, grâce à moi, hein, mais il y a quand même quelqu'un derrière.
C'est toi qui as fait tout le job. Juste pour terminer, un petit mot de la fin, Alice, ça serait quoi le conseil, toi, que tu donnerais à quelqu'un ou en tout cas, qu'est-ce que tu dirais à une prof de yoga comme toi, une jeune prof qui a aussi peut-être des études ou un autre job à côté? Ça serait quoi le mot de la fin pour ces personnes-là? Quel est le message que tu aurais envie de leur faire passer si elles ont envie de développer elles aussi leur activité de yoga ou leur activité en ligne?
Je pense que le plus fondamental et le conseil que je pourrais donner, ça serait vraiment que ça reste quelque chose qui vous fasse plaisir. Moi, j'ai l'impression, là, je suis en stage en ce moment. Mon travail principal, c'est le stage. Et en fait, quand je fais du yoga et quand je donne des cours ou quand je travaille sur Endo Serenity, oui, c'est du travail, mais en fait, j'ai pas l'impression que ça en est. Et c'est presque une bouffée d'oxygène, en fait, par rapport au reste. Et je pense que le meilleur conseil, c'est vraiment de faire ce qui nous fait plaisir et que ça reste un plaisir. Et je pense que vraiment allier une activité salariée ou des études ou quoi que ce soit avec quelque chose comme ça, une passion, quelque chose qui nous fait vibrer, moi je trouve que c'est vraiment le combo gagnant. Après, c'est quelque chose qui me correspond vraiment, mais je pense que le conseil, c'est de faire ce qui vous passionne et de réussir à allier les deux sans se mettre la pression. Et se laisser le temps, parce que mine de rien, en fait, quand t'as 5 ou 10 heures à allouer à ton activité par semaine, t'en as pas 35. Donc on soulève pas des montagnes de la même manière, ça prend plus de temps, mais ça n'empêche qu'on peut quand même faire des jolies choses.
Exactement, et t'en es la belle preuve. Merci beaucoup Alice, merci pour ton témoignage, merci pour cette interview, et écoute, on te retrouve très vite sur les réseaux, sur Endo Serenity. À bientôt.
Merci Cécile, merci beaucoup.
Si comme Alice, tu es future ou jeune diplômée de ton yoga teacher training et que tu souhaites toi aussi développer ton activité de yoga grâce à une offre en ligne, sans perdre de temps et sans t'éparpiller en construisant ton propre business model sur mesure, loin des paradigmes du business model historique du prof de yoga qui doit absolument enseigner des cours en présentiel de 60 minutes, je t'invite à nous rejoindre dans Yogi Peace Line dès aujourd'hui. Tu retrouveras toutes les informations informations sur cette formation et cet accompagnement, ce mentorat personnalisé dans les notes de cet épisode ou bien directement dans la bio de mon compte Instagram @yogibizcoaching. Je reste évidemment disponible pour toi si tu as des questions. Et si tu veux voir tout le travail d'Alice, eh bien tu retrouveras également tous les liens pour la rejoindre dans les notes de cet épisode également. Si cet épisode t'a plu, la meilleure façon de me remercier, de nous remercier, de nous le faire savoir, c'est de me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles sur Apple ou une note également sur Spotify. Et bien évidemment, de partager cet épisode en story si tu préfères, mais sache que ton engagement compte. YogiBiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.